Chapitre 4. Le voisinage de ma mère était devenu restreint après avoir été très nombreux. Elle voyait beaucoup, entre autres, mon oncle le duc de la Force, sa fille, la marquise de Lagrange, femme des plus spirituelles, et son mari, savant distingué, numismate émérite et généalogiste remarquable. Un des côtés charmants de ma bonne mère était sa candeur et sa foi obscure dans la quatrième page des journaux. Elle croyait à toutes les interventions qui étaient signalées, essayait force machine, admirable, force chaussure, perfectionnée, force outil, merveilleux. Lequel n'avait que l'inconvénient de ne pouvoir être utilisé. Je me souviens d'un certain appareil athée, qui rappelait vaguement le canon du palais royal, lorsque se terminait le transvasement de l'eau d'un siphon, dont le siphon taillait. À la fin du déjeuner, après 20 minutes d'attente, nous oublions cet insupportable engin, et tout à coup, nous bondissions sur nos chaises. Boum ! Le thé était fait. L'enthousiasme de notre chère maman, lorsqu'elle inaugurait une de ces machines redoutées, était charmant à voir. Elle était si pleine de confiance, de joie anticipée. Mais peu à peu, son regard triomphant devenait inquiet, puis mécontent. Son sourire s'effaçait par degrés, sa physionomie radieuse s'assombrissait et se montrait soucieuse. Enfin, ne tenant plus, elle s'exclamait. « C'est une tromperie atroce !» nous disait-elle alors avec feu. « Emportez cette horreur !» ajoutait-elle en s'adressant au valet de chambre qui riait sous cape, tandis que nous nous tordions. « Et qu'elle ne reparaisse plus !» Un jour d'automne, à la campagne, nous étions seuls, elle arriva triomphante à la salle à manger. Elle me montra complaisamment des bottines caoutchouc, incomparables pour préserver de l'humidité. Pendant le déjeuner, sa joie disparut par degrés. Les brodequins changeaient ses pieds en glaçons, tant et si bien que, les sentant gelés, elle imagina pour les réchauffer de les tenir sur une bouche de calorifère. Au bout de quelques minutes, son front s'éclaircit. « À la bonne heure, » dit-elle. « J'avais besoin de cela. À présent, allons nous promener. »« eh bien, qu'y a-t-il, chère maman » demandai-je, prête à la suivre et m'étonnant de son immobilité, après ce qu'elle venait de dire. « Il y a, » répliqua-t-elle d'un air consterné, « que mes maudits souliers sont collés à la bouche de chaleur. Impossible de les en arracher. Cours vite m'en chercher d'autres. » Je m'élançai en riant de cette situation bizarre. Inutile d'ajouter que les bottines furent mises de côté. Un printemps, étant arrivé de fort bonne heure à la campagne maman et moi, nous ne trouvâmes pas encore de salade dans le jardin. Cela nous contraria beaucoup, car nous l'aimions fort. Ma mère était pensive en parcourant avec moi les allées du parc, lorsqu'elle poussa tout à coup une exclamation. « Olga, nous aurons de la salade ce soir » s'écria-t-elle. « Comment cela, chère maman ? » dis-je tout surprise, regardant machinalement dans la pelouse les herbes naissantes qu'elle m'indiquait du doigt. « C'est coucou, » reprit-elle. « Eh bien, cela doit être excellent. Vous croyez, chère maman ? » demandai-je d'un ton incrédule. « Il nous coûte rien d'essayer, rapportons-en. » La cueillette fut vite terminée. Ma mère les fit assaisonner avec soin, puis, pleine d'espérance et fort intriguée, nous nous servîmes tour à tour. Nous nous regardâmes ensuite, piteusement, après avoir essayé en vain d'avaler ces fleurs rebelles à toute mastication. « Oh, prends garde, tu vas t'étrangler. Crache vite !» me dit ma mère en prêchant l'exemple. « Oh, c'est une horrible chose !» ajouta-t-elle. Tandis que nous reprenions haleine, les yeux pleins de larmes de cette demi-strangulation et les joues encore rouges d'émotions terrifiées. Il y eut un jour cependant où elle fut bien convaincue qu'elle allait introduire en France une amélioration notable dans l'agriculture. C'était au sujet du foin à conserver. Les regains sont très difficiles à faire en Normandie, vu l'humidité précoce qui règne en automne. Maman nous le faisait remarquer lorsque soudain elle s'arrêta, frappée d'une idée lumineuse. « Eh mais !» s'écria-t-elle. « Comment n'ai-je pas pensé jusqu'ici employer la méthode russe ? Voyons donc que je tâche de m'en souvenir. C'est très ingénieux. On fait une grande meule, en posant ça et là des longues traverses de bois que l'on retire lorsque la meule est achevée. Cela donne une ventilation qui empêche le foin de s'échauffer et l'on garde indéfiniment cette réserve en prenant simplement au fur et à mesure la nourriture quotidienne des animaux. » Je vais faire arranger mon regain de cette façon. Cela épargne le bottelage et la main-d'œuvre pour le rentrer dans les greniers. Ainsi dit, ainsi fait. ma mère présida elle-même à la confection de la grosse meule, accompagnée par nous, que gagnait sa confiance profonde dans le succès, et le regain fut déposé dans une prairie écartée, à côté du jardin et des communs. Ceci terminé, nous attendîmes le résultat. Le garde secouait la tête en regardant la meule, à la grande indignation de ma mère qui le traitait de routinier. Cela alla bien pendant 15 jours. Au bout de ce temps, nous sentîmes en nous promenant de ce côté-là des émanations désagréables, mais vagues, mais de plus en plus accentuées, fétides. « C'est ennuyeux !» dit alors ma mère. « Je suis sûre que quelqu'un a dû jeter une charogne dans le bois derrière le jardin. Il faut que j'avertisse Boulan, c'était le nom du garde, de chercher dans ce taillis. »« C'est bien nécessaire, » répondîmes-nous, persuadés comme elle de la présence d'un cadavre de bête quelconque, jeté là par négligence. Le garde arriva. Lorsque ma mère lui dit d'aller examiner le taillis et la raison de cette recherche, il secoua encore la tête, mais cette fois il avait l'air embarrassé et narquois. « Madame, hasarda-t-il, ce n'est pas du bois que vient l'odeur. Et d'où donc, Boulon ? Sauf respect, ça vient. Eh bien, parlez, ça vient du foin. »« Comment du foin ? » répéta ma mère en le regardant. « Mais c'est impossible, il est arrangé à la russe. » Dame, madame la comtesse, ça ne l'empêche tout de même pas de sentir fièrement mauvais. Vous croyez, Boulan ? Demanda avec inquiétude ma pauvre maman, dont la confiance en son procédé commençait à trébucher. Que madame vienne voir ça d'elle-même. Maman ne se le fit pas dire deux fois. Nous nous élançâmes à sa suite, riant un peu, mais cependant très ennuyés, car cela vexait visiblement notre bonne mère, et c'était d'ailleurs une perte réelle. Arrivés à la meule, nous la flairâmes en silence, puis nous nous regardâmes tristement. L'odeur en était franchement nauséabonde. Et là, ce n'était rien à côté de la surprise affreuse que nous réservait l'impitoyable Boulon. Il plongea son bras dans le regain. Ce qu'il en retira nous fit sauver tous en criant, suffoqués que nous étions par cet épouvantable charnier. « Boulon, hein, croyez-vous que cela fera du bon fumier au moins ?» demanda avec un reste d'espérance notre infortunée maman, tout en nous suivant d'un pas accéléré. « Ma foi, madame, je n'en réponds pas, » répondit le garde, cruel jusqu'au bout. « Cette pourriture-là, m'est avis qu'elle ne peut servir à rien. » Ainsi se termina la tentative de foin à la russe. Pendant un des automnes, nous étions restés seuls à la campagne, nous sortîmes un matin après déjeuner pour faire notre promenade habituelle. Tout à coup, ma mère s'arrête et entre vivement dans l'herbe mouillée. « Allons voir cela, » me dit-elle. « Quelle est cette affreuse bête ?»« Ah, l'horreur !» m'écriai-je, en apercevant l'animal qui gisait immobile sur le gazon. Toujours résolue, ma mère le poussa du bout de son ombrelle, mais il ne bougeait pas, et nous vîmes qu'il était mort. Nous l'examinâmes alors avec une surprise de plus en plus profonde. C'était une bête d'environ 40 cm de longueur, dont la tête eût été semblable à celle d'un lapin, n'eussent été les oreilles droites et pointues comme celles d'un roquet. La gueule entrouverte laissait voir de longues dents blanches. Le corps de cet être étrange était semblable à celui d'un pingouin et couvert de plumes grises. Le ventre avait des plumes blanches, les pattes étaient celles d'un canard. « Quelle drôle de bête !» murmurait maman. « Quel monstre !» ajoutai-je en m'en éloignant avec dégoût. « Il faut demander à Boulan s'il en a vu de semblable !» reprit-elle en continuant son examen. Je courus chercher le garde. « Boulan, regardez donc cet animal !» lui dit ma mère. « Où aviez-vous déjà vu de cette espèce dans le pays ?» Le pauvre homme fit un cri en apercevant ce que nous lui désignions. « Madame, c'est le diable !» balbutia-t-il en reculant, plein d'épouvante. « Allons donc !» reprit maman. « C'est une bête, elle est morte !» Ces mots rassurèrent un peu notre vaillant garde. « Madame Croix ?» demanda-t-il, se rapprochant avec méfiance. « J'en suis sûr, voyez. » Et ma mère poussa du pied le lapin oiseau qui gisait sur l'herbe. « Alors faut vite l'enterrer, » reprit Boulan. « C'est de la poison, madame, peut m'en croire. » Et il courut chercher une bêche. La figure du garde était à peindre lorsqu'il procéda à cette tâche. Les yeux fixes et arrondis par l'effroi, une grimace de dégoût sur le visage, il souleva la poison avec des précautions inimaginables et l'enfouit une profondeur énorme. tandis que nous nous éloignions en riant, amusés de voir cette physionomie aussi expressive qu'effarée. Nous regrettâmes ensuite de n'avoir pas expédié à un savant cette bête singulière, car l'on nous dit que c'eût été une véritable curiosité pour la science de lui signaler cette trouvaille. Ma mère avait pour jardinier un brave et excellent homme, vrai serviteur des temps anciens, orné de toutes les vertus. Le froid était marié et sa femme était, chose rare, son pendant comme honnêteté, activité, zèle et dévouement. C'était un type charmant que Madeleine, dévote à l'excès, elle bénissait tout ce qui lui tombait sous la main et rendait la vie dure à son chat en le faisant jeûner comme elle les jours de pénitence réglementaires prescrits par l'Église. Elle mettait un soin minutieux à faire son ouvrage, aimait à se rendre compte de tout, au point de connaître la quantité de fraises et le nombre de groseilles composant un plat. Madeleine se plaisait à nous inonder de pots de fleurs. Moi j'en étais enchantée, malgré l'ennui de déménager chaque soir sur le palier 30 et quelques plantes pour les emménager le lendemain matin. Mais ma mère, qui était fort indifférente à cet égard, en était ennuyée au-delà de toute expression, sans jamais oser le dire, car elle eut navré Madeleine. Certains jours où le temps menaçait d'un orage, nous le savions par la brave femme qui bégayait, locution normande. Soudain, à son grand désespoir, nous faisions des efforts surhumains pour garder notre sérieux en observant Madeleine, qui, venue pour faire une petite causette, restait bouche béante, en proférant des sons inarticulés ou des syllabes n'aboutissant jamais à rien. Non, finissait-elle par gémir en tapant du pied. Je peux pas. Le temps. Il y aura de l'orage. Elle sortait d'un air lugubre, image vivante de sa sainte patronne, nous laissant libre de rire, ce dont nous ne faisions certes pas faute. Les jours de naissance et les jours de fête de nos patrons, nous voyions apparaître Madeleine avec un beau bouquet destiné à celui ou à celle de nous qui devait le recevoir. Alors venait un naïf compliment, un bientôt su également par nous, tant il fut redit de fois. J'aurais hâte de plus me le rappeler que d'une manière confuse. Il disait, entre autres choses, recevez ce bouquet. Il n'est ni beau, ni bien fait. Là-dessus arrivait cette phrase délicieuse de candeur. Il vous ressemble. Et cela se terminait par « Monsieur ou Madame ou Mademoiselle, excusez. » Le jour de la très sainte Trinité, il lui semblait voir trois soleils, affirmait-elle, ce qui la jetait dans des extases profondes. La simplicité et la ferveur de l'excellente créature méritaient certes les faveurs du ciel. Peut-être était-ce une vision réelle qui la ravissait ainsi. Dieu ne se plaît-il pas à prodiguer ses dons aux humbles et aux petits ? Humbles et petits. Ces mots amènent à parler d'un confesseur de ma mère, lequel, par sa simplicité modeste et sa naïveté enfantine, nous rappelait la phrase charmante d'un grand écrivain. C'est un enfant dont les cheveux ont blanchi par accident. L'abbé L., curé d'un village dans nos environs, nous racontait gravement des choses charmantes sur les papillons qu'il admirait fort et qu'il affirmait être faciles à apprivoiser. Il se faisait de leur parler doucement, de leur dire des choses aimables, de les approcher sans hâte, ni sans brusquerie, moyennant quoi ces belles petites créatures de Dieu venaient volontiers sur le doigt, y restaient sans crainte, et voltigeaient sur les vêtements, jusque sur la figure qu'ils semblaient caresser. Nous rîmes d'abord de ces dires, mais quelle ne fut pas notre surprise, lorsqu'ayant essayé d'en faire autant, nous réussîmes. J'affirme pour ma part avoir gardé près de 10 minutes sur ma main un papillon venu sur mon appel et l'avoir vu se poser ensuite sur mon visage. Le brave curé avait recueilli un de ces feux follets des airs, lequel, engourdi par les premiers froids, s'était traîné dans sa bibliothèque. Le vieux prêtre posait près de son protégé tout ce qu'il supposait capable de lui être agréable, voire même un bonbon de chocolat qu'il prit chez nous à cette intention. Sa bonté pour les animaux était grande, et son chat le savait. Aussi avait-il érigé en principe la nécessité de dormir sur les pieds de son maître. Le polisson vagabondait le soir, sans vouloir rien perdre de ses droits. Il arrivait donc sans vergogne, jusqu'à la fenêtre du bon vieillard, et là il frappait le carreau avec sa patte. Le curé se réveillait en sursaut, s'indignait d'abord de cette audace, puis, sa charité reprenant le dessus, il s'apitoyait sur le sort de son chat et allait, en grelottant, lui ouvrir. Le pauvre prêtre, doux et même faible, avait pour servante une vieille virago, qui eût tenu tête à toute la gendarmerie du canton. Elle menait la paroisse tambour battant, le curé en tête. Sa qualité de blanchisseuse émérite faisait que le pauvre prêtre tolérait ses criailleries incessantes. Ce qui le désolait particulièrement, c'était les incursions de la servante dans sa bibliothèque, où il cachait les plus beaux fruits destinés à être offerts à des amis et à des convives. Il nous parlait souvent de ses découvertes douloureuses, les pois, martelés par une poigne brutale, se maculant vite et devant être jetés au lieu d'être offertes. « Elle a un pouce ?» disait-il d'un ton lamentable. « Un vrai pouce d'assassin pour mes pauvres poires. Et encore, c'est qu'elle y retourne pour que je ne m'aperçoive pas qu'elle les a tâtées. »